Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous?
Bon, on va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que c'est toi qui es le roi des cieux, celui qui nous a tant aimés. C'est toi le seul vrai Dieu. Et Seigneur, un jour, tu es venu nous rencontrer sur notre route pour qu'on puisse réaliser cela, réaliser que notre besoin dans cette vie, notre plus grand besoin, c'était toi, d'entrer en relation avec toi et de te connaître, d'apprendre à marcher selon tes voies et selon ta volonté. Seigneur, merci parce qu'un jour, tu es venu toucher mon cœur et tu m'as fait réaliser que sans Christ, j'étais perdu. Sans Christ, j'étais sans toi et sans espérance. Mais par ta grâce, tu as touché mon cœur. Et tu as touché le cœur de plusieurs qui sont ici ce matin. Et c'est pour cela, Seigneur, que ce matin, on est là devant toi, devant ta parole. Et on veut soumettre nos cœurs à cette parole, parce que c'est toi qui es l'autorité dans nos vies. Seigneur, ma prière, c'est que ce matin, tu puisses calmer nos cœurs, nos pensées. Qu'on puisse vraiment réaliser que c'est toi qui es au-dessus de toutes choses et qu'on te doit allégeance. C'est toi qui es le maître de nos vies. Et que nos cœurs puissent être apaisés pour que nous puissions, par ton esprit, entendre ta parole, entendre ce que tu as à nous dire, et que nous puissions, Seigneur, réellement vivre selon l'évangile que tu nous as laissé. Qu'on puisse vivre, Seigneur, pour ta gloire. Parce que toi seul es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur, la louange, la puissance et la sagesse pour l'éternité. C'est au nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. J'espère que vous êtes avec moi dans Galates au chapitre 4 et puis que on a entendu le passage qui a été lu et on va suivre ensemble ce passage ce matin. On revient dans cette étude de l'Épître aux Galates. En réfléchissant au passage de ce matin, j'en suis venu à réaliser dans mes réflexions et comment on peut vivre tout ça. Chaque génération d'ados a ses expressions. Puis des expressions qui ne sont pas comprises par les autres générations. Hein? J'ai essayé de trouver des expressions d'ados, j'en connais pas. Mais quand j'étais au secondaire, nous autres, on avait nos expressions. Et puis, elles sont connues plus du plus grand nombre. Aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on utilise ça, mais c'est peut-être plus aussi in ou cool ou hot, ces expressions-là aujourd'hui. Nous autres, c'est ça qu'on utilisait. Hey, quelque chose est le fun. Ah, c'est cool! Après ça, un peu plus tard, là, j'ai les collèges et carrières, là, je les entends. C'est chill! Là, c'est encore mieux. Là, on dirait que c'est encore plus cool. Mais chaque génération d'ados a ses expressions. Puis nous autres, on en avait qui, parfois, étaient des expressions qui étaient un peu plus blessantes. On avait peur d'entendre cette expression-là nous s'adresser à nous. T'as pas rapport, man. T'es ben rejet. Ça, dans mon temps, c'était ça. Il y en avait qu'on redoutait, des expressions qu'on redoutait. Puis ça, c'en était une. Une que nous, on a. Des fois, c'est même des clics. Hein, moi, dans ma classe, au secondaire, il y avait un certain leader. Puis lui, il avait, pour dire que quelqu'un n'avait pas rapport, il avait développé quelque chose que tout le monde était venu à faire. Tu dis quelque chose, t'as pas rapport, c'était comme un petit peu rejet. Il faisait des faisait aucun sens. Tu dis quelque chose, ça c'est comme t'as pas rapport, man. Fait que on en venait à redouter ça. Hein? Tu dis de quoi? Tu essaies de placer une joke, puis là, il arrive, all right! Il n'a pas fait. Puis on était content de ça. Et dans le fond, ce que ça révélait, c'est que on a quand même, avec cette crainte-là de rejet, tout ça, on a un désir de se faire accepter, un désir d'être approuvé par les gens autour de nous. On veut sentir un amour, une approbation, une acceptation. Et au milieu de ce groupe-là, quand j'étais au secondaire, moi, il y avait toujours ce désir-là d'être accepté, de pas être celui qui se fait traiter de rejet ou qui a pas rapport ou que ça m'amenait même à avoir certaines actions, à poser certains gestes. Il y avait un leader dans la classe. C'est encore un bon ami à moi. Par la grâce de Dieu, c'est un frère dans le Seigneur aujourd'hui. Mais il vit à Vancouver maintenant, fait qu'on se côtoie un petit peu moins. Mais il était leader dans le groupe. Il était bon dans le sport. Il avait des bonnes jokes. Puis tu sais, là, lui, là, les gens le regardaient. Fait que dans un sens, qu'est-ce que tu cherchais à faire? Si tu veux t'accepter du groupe, faut que ce gars-là t'approuve. Fait que là, tu fais une joke, essaye de le faire rire, là, hey, là, il l'a trouvé bonne, puis là, tout le monde, ah, là, je fais partie de la gang. Et donc, il y avait ce sentiment de vouloir être accepté, puis ce sentiment-là de vouloir être accepté, de vouloir être approuvé, on le ressent aussi souvent dans notre relation avec Dieu. Personne, et très peu de gens, à moins que peut-être tu sois athée, mais ceux qui croient en une certaine divinité cherchent d'une certaine façon, à être approuvé, à être accepté de Dieu. Et puis, pour nous qui avons grandi, peut-être pour les plus âgés, qui ont grandi dans un contexte catholique, vous avez appris que pour être accepté de Dieu, vous deviez pratiquer des bonnes œuvres et faire du bien et vous éloigner du mal. Puis en faisant des bonnes œuvres, Dieu allait vous accepter. Dieu allait vous approuver. Pour d'autres, plus de ma génération, qui ont grandi dans une famille chrétienne, c'était peut-être vos parents qui mettaient un accent très fort sur le fait d'avoir un bon comportement et d'apparaître comme un bon chrétien. Et puis, en quelque sorte, si je lis ma Bible chaque jour, si je prends le temps de prier, si je fais mon culte personnel, si je vais à l'église, je suis un bon chrétien, puis en étant un bon chrétien, Dieu va m'approuver. Peut-être que vous avez grandi avec cette mentalité-là, avec ces enseignements-là. Et souvent, comme chrétien, on vient à penser que pour être approuvé de Dieu, on a besoin d'en faire beaucoup. On a besoin d'être, pour employer une expression courante chez les jeunes, d'être sa coche. De remplir les exigences de Dieu et d'être sur la coche pour Dieu. Et comme ça, Dieu va m'approuver et Dieu va me bénir et, parce que je s'accroche pour Dieu. Mais dans l'Épître aux Galates, Paul adresse ce problème-là, de penser que pour être accepté de Dieu, pour être approuvé de Dieu, tu as besoin d'être s'accroche, tu as besoin d'être celui qui obéit à toutes les lois que Dieu a données. Et Paul adresse ce problème-là. Et dans le passage de ce matin, on en arrive à une conclusion de l'apôtre Paul, de tout l'argument qui a commencé depuis les premiers chapitres. Et il cherche à défendre la vérité de l'Évangile en disant que non, c'est pas en étant sur la coche que tu vas être justifié, que tu vas être rendu juste ou être approuvé de Dieu. Paul dit qu'en Jésus-Christ, il y a une nouvelle réalité qui vient. Et on l'a vu à la fin du chapitre 3, verset 26 à 29. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. » Verset 29, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Donc, une nouvelle réalité pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ pour être approuvés de Dieu. Et cette réalité-là, c'est que tu es un enfant de Dieu. Et maintenant, tu n'es plus un esclave, mais tu es libre. Et Paul va continuer cette partie qu'on a lue ce matin et terminer son argument en reprenant cette idée-là d'une nouvelle réalité que nous avons en Jésus-Christ. Et on va voir ça ensemble ce matin. Puis il démontre avec ça que c'est pas, comme chrétien, on ne doit pas fonder et avoir notre sentiment d'acceptation, d'approbation pour Dieu sur la base de ce qu'on fait, mais sur la base de ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. On l'a vu assez en détail dans les dernières prédications dans Galates. Ce qui fait réellement qu'on est accepté devant Dieu, c'est l'œuvre que Christ a accomplie pour nous et la foi que je vais placer. Est-ce que j'accepte ce cadeau que Dieu a offert pour moi? Et si je l'accepte, je suis approuvé de Dieu parce que Christ me donne le pardon des péchés. Et comme chrétien, on comprend ça. On comprend qu'on est sauvé. Qu'on est sauvé lorsqu'on a placé notre foi en Jésus-Christ qui nous a donné le pardon des péchés. Mais souvent, le problème, c'est que après que je suis sauvé, que j'ai été justifié, c'est comme si je revenais avec mon ancienne pensée de croire que pour être approuvé de Dieu, je dois encore continuer à observer ses lois. C'est vrai qu'on glorifie Dieu par l'obéissance à sa parole. Mais est-ce que l'approbation est basée sur ça? Non! En Christ, je suis déjà approuvé, entièrement accepté de Dieu. Et on veut demeurer ferme. C'est ce que Paul nous exhorte au chapitre 5, verset 1. Il veut qu'on demeure ferme dans notre foi que Jésus-Christ nous a sauvés. Parce que le prix payé par Jésus-Christ à la croix est la seule vraie valeur qui nous procure la justice de Dieu et la liberté. Nous devons demeurer ferme dans la foi parce que le prix que Christ a payé pour nous, c'est ça qui a de la vraie valeur aux yeux de Dieu. C'est ça qui fait que je suis approuvé et c'est ça qui me donne la justice et la liberté en Jésus-Christ. Donc, j'aimerais vous suggérer ce matin trois attitudes et actions à prendre pour qu'on puisse demeurer ferme dans la foi. Et pour demeurer ferme dans la foi, on doit apprécier notre véritable identité en Jésus-Christ. Deuxièmement, chérir par la foi Christ comme notre plus grand trésor et abandonner ce qui nous influence à ne pas obéir à l'Évangile. Trois attitudes et trois actions à poser pour pouvoir demeurer ferme dans la foi. Et les premières, on la trouve dans Galates, le chapitre 4, les versets 21 à 31. Et là, Paul va développer tout un argument autour de Abraham, Agar, Sarah et deux alliances. Et on va essayer de décortiquer ça ensemble pour essayer de mieux comprendre parce que à première vue, c'est pas si simple. Quand je lisais ça, ce passage-là, je disais, oh boy, comment je vais expliquer ça? Et puis, mais par la grâce de Dieu, c'est pas si compliqué que ça. Et puis, quand on prend le temps d'approfondir, d'étudier, on peut véritablement comprendre l'argument que Paul est en train de développer. Mais on doit, premièrement, pour demeurer ferme, apprécier, réaliser c'est quoi mon identité en Jésus-Christ. Que je suis devenu un enfant de Dieu, c'est une nouvelle réalité. Et dans le fond, lorsqu'on recherche notre approbation de Dieu par nos bonnes œuvres ou par le bien qu'on peut faire, c'est un problème d'identité. J'ai oublié que je suis déjà, par la foi en Jésus-Christ, un enfant de Dieu et que je suis déjà approuvé. Et lorsque j'essaie par mes bonnes œuvres de dire, « Seigneur, j'espère que tu m'aimes, puis je cherche la faveur de Dieu à travers mes œuvres », c'est un problème d'identité. J'ai oublié qu'en Jésus-Christ, je suis entièrement approuvé de Dieu. Et c'est ce que Paul veut adresser. Et on oublie qu'en Jésus-Christ, Dieu a fait de moi son enfant. J'ai une relation privilégiée avec lui. Et pour apprécier cette véritable identité en Jésus-Christ, on doit saisir les vérités de ce passage. Premièrement, que l'observation de la loi conduit à l'esclavage. Versets 21 à 26, c'est ça que Paul fait comme argument. Il va commencer en disant, « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? » Et dans un sens, encore une fois, va utiliser la loi pour expliquer l'œuvre de Christ, expliquer la nouvelle alliance que Dieu est venu établir en Jésus-Christ. Et Paul introduit ça, ne comprenez-vous point la loi? Et il va aller, non pas dans la loi de Moïse, dans le sens des 10 commandements, l'Exode, la loi que Dieu a révélée à Moïse, mais plutôt dans la grande partie de la loi de Moïse, les Juifs appellent cette partie-là la Torah, qui commence de la Genèse à Deutéronome. Et plutôt que de se concentrer sur ce qui s'est passé au mont Sinaï, ou lorsque Dieu a communiqué les commandements, Paul va aller un petit peu plus tôt dans la loi. Et avec Abraham, va montrer qu'est-ce que Dieu a voulu faire, qu'est-ce que Dieu a voulu accomplir. Et c'est une explication, élabore une comparaison entre deux femmes et deux enfants différents, c'est ça, que Abraham a eu. Juste pour nous aider à situer toute cette discussion-là autour de verset 22, Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, un de la femme libre. Et puis, un est né selon la chair et l'autre est né selon la liberté. Et ces faits ont une valeur allégorique. Il faut comprendre quel est le contexte que Paul a en tête. Et Paul a en tête le contexte de la vie d'Abraham. Dieu, on l'a vu, avait fait une promesse à Abraham. Il allait avoir une postérité nombreuse. Et Abraham, étant quelques milliers d'années avant Jésus-Christ, est le père de la nation juive. Les Juifs se tournaient vers Abraham pour dire « Abraham est notre père ». Et c'est ce qui est arrivé, c'est que Dieu a répondu à la promesse qu'il avait faite à Abraham. Mais avant que la promesse s'accomplisse, Abraham et Sarah, son épouse légitime, qui était stérile, ne pouvait pas avoir d'enfant, Dieu a fait cette promesse-là, mais c'est comme si Dieu a fait la promesse, Abraham avait 75 ans, 10 ans plus tard, la promesse n'est pas accomplie. C'est comme si Abraham et Sarah se sont dit, regarde, on va aider Dieu, là, ça n'a pas l'air à marcher, là, sa promesse n'est pas en train de s'accomplir. Alors, ils ont fait ce qui se fait selon la coutume, c'est de donner la servante de la femme pour femme au maître, au mari, à Abraham. Donc, elle a pris Agar, elle dit, ben, regarde, va vers ma servante, puis peut-être que la promesse va se réaliser à travers l'enfant qui va naître d'elle. Et c'est ce qui est arrivé. Abraham est allé vers la servante, a eu un enfant, mais Dieu a dit, non. Tu as voulu m'aider, mais tu n'avais pas besoin de m'aider. Je n'ai pas besoin d'aide, là. Tu as voulu aller comme ça, régler le problème. La promesse ne s'accomplit pas. Je t'ai fait une promesse, ça va s'accomplir. Puis Sarah va avoir un enfant. Mais là, ça n'a pas d'allure. Là, regarde l'âge qu'on est rendu, etc. Et finalement, la promesse est accomplie. Sarah a eu un enfant et cet enfant-là était Isaac. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu un enfant qui est né selon la promesse de Dieu et un qui est né plus, on va dire, selon la chair, pas nécessairement péjorativement, mais selon le cours de la continuité de la vie, si je peux dire, avec Agar. Et puis, de ces deux enfants-là, sont nés deux nations, Ismaël étant une nation et Isaac étant l'autre nation. Et la nation, selon la promesse, c'est avec Isaac. Et c'est ce qu'on voit plus loin, verset 28. « Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. » Et là, Isaac était la descendance de la promesse. Maintenant, Paul va utiliser cette période-là dans la vie d'Abraham pour expliquer quelque chose. Vous pensez, juifs, qu'en étant sous la loi de Moïse et en obéissant à la loi, vous êtes des enfants de la promesse. Ben oui, on est des enfants d'Isaac, on a reçu la loi de Dieu, et en la suivant, je suis un enfant de la promesse. Il est en train de dire non. Cet épisode-là dans la vie d'Abraham avait une valeur typologique. Dans un sens, ça annonçait quelque chose qui allait venir plus tard. Ceux qui sont nés de la femme de Agar, qui était la femme esclave, c'est ceux qui ont reçu la loi et qui sont sous l'esclavage de la loi du Mont Sinaï. Et c'est juste une image pour expliquer. Et donc, Paul va prendre cette image-là, va dire, si tu es sous la loi, tu n'es pas l'enfant de la promesse, mais tu es enfant de la femme esclave. Et suite à ça, Paul va continuer, il va dire, ceux qui sont véritablement de la promesse, c'est ceux qui sont de la descendance d'Abraham, en Jésus-Christ, et donc de la descendance non seulement d'Isaac, mais de Christ. Et donc, deux comparaisons, on a la femme, l'enfant, qu'est-ce que ça représente? Sous la loi, et l'autre, sous Christ. La Jérusalem actuelle qui est prise sous la loi, et l'autre, une Jérusalem céleste. Et donc, si toi qui es juif, tu dis que tu es un enfant d'Isaac, mais que tu te places sous la loi, tu n'es pas un enfant de la promesse. T'es un enfant selon l'esclavage, comparativement à l'enfant d'Agar. Et donc, si tu veux vraiment être un enfant selon la promesse et libre, tu dois être de la descendance de Christ et placer ta foi en Jésus-Christ. Donc, un peu compliqué tout ça, mais quand même, c'est juste une comparaison que Dieu va faire. Mais à travers ça, qu'est-ce que Paul est en train de dire? C'est que si tu es en train d'observer la loi, puis tu penses que tu vas trouver ta justice à travers ça, tu es condamné. T'es pris sous l'esclavage. Mais, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe, verset 27. Et la femme qui était stérile a eu un enfant, et pas juste un, mais une multitude d'enfants. Et Paul va citer Ésaïe 54. Et dire à travers ça que c'est la grâce de Dieu qui va me procurer mon approbation devant Dieu, qui va me procurer les bénédictions de la promesse. Car il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. » Et lorsqu'on prend ce passage-là, c'est une citation d'Ésaïe 54, on l'analyse, Paul l'utilise pour son argument, mais lorsqu'on va voir le contexte d'Ésaïe 54, puis j'aimerais ça qu'on aille voir ça, c'est là qu'on voit la bénédiction réelle que Dieu a promis à Sarah à travers la descendance qu'elle a eue. Et on va aller lire ensemble Ésaïe 54, un superbe passage qui nous parle de l'amour de Dieu et qui manifeste comment, dans le plan de Dieu, Dieu a béni Sarah et Abraham, pas seulement avec un enfant, mais avec une multitude d'enfants. Et Dieu a accompli sa promesse à travers ça. Et on découvre aussi que dans l'Ancien Testament, Dieu avait annoncé que toutes les nations seraient bénies en Abraham. Et on voit cette promesse-là encore une fois répétée ici. Donc, Paul va citer Ésaïe 54, le verset 1, il dit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. » Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, dans un sens, agrandis ton terrain parce qu'il va y en avoir du monde qui va venir habiter ici. OK? Et car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé. Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Car quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Quand Paul cite Ésaïe 54 dans Galates 4, il y a tout ce contexte-là en tête. Le contexte où Dieu est en train de parler à Israël. Dire, tu étais une femme délaissée, mais je t'ai pris. J'ai compassion de toi, je te manifeste mon amour. Et puis, en plus de ça, ta postérité, ça ne sera pas une poignée de gens dans un peuple, mais ça va être dans toutes les nations que ta postérité va se répandre. Je vais manifester envers toi un amour éternel et je vais établir une alliance de paix avec toi. Quand Paul dit ça aux Juifs, il est en train de dire aussi aux Galates qui sont peut-être... Certains sont des païens. Toi aussi, tu es dans toutes les nations, mais toi aussi, tu peux être un enfant d'Abraham. Toi aussi, tu peux être un enfant de Dieu, être un fils de Dieu. Parce que en Jésus-Christ, je suis venu accomplir ce qui manquait pour que tu puisses être un enfant de Dieu. Et maintenant, par la foi en Jésus-Christ, par cet amour éternel qui ne va jamais se séparer de moi, Dieu a manifesté en Jésus-Christ que je pouvais, par la foi, devenir son enfant. Et que ce n'est pas à cause de mes œuvres que Dieu m'approuve, et que même en continuant de marcher, ce n'est pas à cause de ça que Dieu m'approuve, mais Dieu m'approuve par l'œuvre que lui-même a accomplie par Jésus-Christ à la croix, et qui a manifesté son amour pour nous. Par la foi en Jésus-Christ, il y a une nouvelle réalité qu'on doit apprécier. Notre nouvelle identité, c'est qu'on est approuvé. On est des enfants de Dieu. On est des héritiers de la promesse. Puis on est libérés de l'esclavage de la loi. C'est ce que Paul cherche à dire aux Juifs et aux Galates. Il est en train de dire, ça donne rien. Essaye pas de faire des efforts puis d'essayer de continuer d'être approuvé de Dieu. Christ a tout accompli et par la foi en lui, tu as accès à la bénédiction de la promesse. Et c'est pour ça que Paul, un peu plus loin, commence le chapitre 5, verset 1, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Christ t'a donné la liberté. Maintenant, tu dois demeurer ferme dans cette liberté que Christ t'a donnée et non pas revenir sous la loi avec comme un esclave, mais plutôt vivre ta liberté et vivre ce changement qu'il y a eu dans ton cœur qui te permet d'obéir à la loi. Maintenant, Christ nous a libérés du péché de l'esclavage et par sa grâce, on doit persévérer, demeurer ferme dans la foi et persévérer dans cette approbation que Dieu m'a donnée à cause de Christ. C'est pour ça que, pour demeurer ferme dans la foi, on doit apprécier notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Je suis un enfant de Dieu par la foi. C'est réglé. Et gloire à Dieu pour ça. Mais si on veut demeurer ferme aussi, on doit chérir par la foi l'œuvre et la personne de Christ comme un plus grand trésor. Ce que Christ a accompli à la croix est tellement précieux. C'est ça qui a de la valeur dans le fond, c'est ça que Paul est en train de dire. C'est tellement précieux. Et lorsque Christ apporte un changement dans ma vie, lorsque j'ai ressaisi Jésus-Christ, maintenant j'ai la liberté de l'aimer parce qu'il m'a aimé. Et maintenant je veux chérir ce que Christ a accompli pour moi, puis je veux l'aimer de plus en plus parce que il m'a tellement touché par son amour. Puis j'espère, frères et sœurs, que c'est ça que vous voulez. Vous voulez chérir ce que Christ a accompli pour vous parce que c'est tellement précieux. Christ m'approuve, me donne l'approbation. Et chérir l'œuvre, et en fait, chérir l'œuvre de Christ m'amène à réaliser que l'amour que j'ai pour Christ, ça vient pas de moi, mais ça vient de lui, finalement. Il y a un auteur que je lisais justement hier, il dit « Quand notre âme est atteinte avec les pointes aiguës de l'amour de Christ, c'est comme l'image de la flèche qui rentre dans le cœur. Hein? » Dans la mythologie grecque, c'était Eros qui lançait une flèche pour toucher le cœur puis remplir le cœur d'amour. Mais c'est comme si Jésus a pris sa flèche, il l'a lancée puis a percé mon cœur. Puis quand l'amour de Christ a percé mon cœur avec les pointes de ses flèches, qu'est-ce que ça fait? Mon âme est enflammée, puis lui offre un amour réciproque. Quand Christ m'a touché par son amour, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux chérir l'œuvre qu'il a accomplie pour moi, puis oublier mes anciennes façons d'être, vouloir être approuvé de Dieu, puis chérir ce que Christ, et m'approprier ce que Christ a fait pour moi. Et on doit réaliser que l'observation de la loi n'a aucune valeur pour me donner la justice de Dieu. On voit ça verset 3 et verset 6. J'affirme encore une fois que tout homme qui se fait circoncire ou qui veut chercher à l'approbation de Dieu par la loi est tenu de pratiquer toute la loi entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Et lorsqu'on a goûté l'amour de Christ, on ne veut pas ça. On ne veut pas être séparé de Christ, mais on veut vivre ce que Christ nous a procuré, on veut vivre ce que Christ nous a donné. Et le problème avec ça, c'est dans un sens, lorsqu'on cherche notre approbation par l'approbation de Dieu par l'observation de la loi, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de dire, Seigneur, oh, regarde-moi, regarde comment je suis, comment je suis bon, tu sais, puis regarde comment je suis capable, moi. Puis ça me faisait penser à quand j'étais jeune, plus jeune, si je peux dire, encore jeune. Quand j'étais ado, si je peux dire, j'écoutais François Pérusse. Puis peut-être que vous avez déjà écouté, puis les fameux albums du peuple. Et dans l'album du peuple, tome 1, il va faire une allégorie avec le royaume des animaux et notre comportement humain. Et puis un des animaux qui est caricaturé puis qui montre un peu les comportements humains, c'est la pintade vantarde. Et la pintade vantarde, ce qu'elle fait, elle appelle son chum, elle dit « Hey, toi, là, ta tondeuse, là, c'est une 2 CV? »« Ah, oui. Mais moi, c'est une 4 CV. Hey, attends. » Il raccroche. Puis tout ce qu'il veut faire, c'est « Regarde comment je suis bon, moi. » Puis il est en train de se vanter de tout ce qu'il a, de ce qu'il accomplit. Puis il est un vantard. Il attire l'attention sur lui pour être approuvé. Et puis, entre les clips, il y a comme, on entend les comme la pintade faire son cri, là. Puis là, à la fin du clip, il dit, on comprend mieux c'est quoi son attitude lorsqu'on ralentit ce qu'il a dit vraiment. Puis là, il dit, regarde-moi. Il y a rien là, regarde-moi. C'est ça qu'elle dit. Fait que son cri, c'est, il y a rien là, oh, regarde-moi. Moi, je suis hot. Alors, regarde, moi, tu peux me taper dans le dos, tu peux me féliciter. Moi, je suis hot. Il n'y a rien là, toi. Alors, regarde-moi. Et lorsqu'on est en train de vivre selon la loi pour chercher l'approbation de Dieu, on est en train de dire, oh, regarde-moi. Alors que ce que Dieu veut faire, c'est pas ça. Il veut regarder ce que lui a accompli en Jésus-Christ. On ne veut pas dire, il n'y a rien là, oh, regarde-moi. On veut dire, hey, non, regarde pas moi, regarde lui. Parce que c'est lui qui a accompli pour moi tout ce que j'avais besoin. Moi, tout ce que j'ai accompli, je suis une sauterelle à côté d'un convoi ferroviaire d'éléphants à comparer à ce que Christ a accompli pour moi. Je suis rien. Et ce qui a de la valeur, c'est pas ma circoncision, mon incirconcision, mon approbation par la loi, mon obéissance à la loi. C'est pas ça. C'est ce que Christ a accompli pour moi qui est grandiose. Alors, regarde pas moi. Oh, regarde ce que lui a accompli. Puis là, maintenant, moi, par la foi, j'accepte ce qu'il m'a donné. Puis regarde-moi à travers lui, parce que moi, là, c'est rien. Lui, c'est quelque chose. Et c'est ça, chérir Christ, chérir l'œuvre de Christ dans ma vie, c'est dire, Seigneur, oh, regarde pas moi, mais regarde-moi à travers tes lunettes de ce que toi, tu as accompli pour moi en Jésus-Christ. Et ce qu'on veut faire, c'est pas tirer le spot sur moi pour avoir l'approbation, mais mettre le spot sur ce que Jésus a fait. Et ce qu'on veut faire, c'est dire, Seigneur, si c'était juste de moi, je serais pas accepté à tes yeux. Mais ce que tu as accompli pour moi est précieux. C'est ça qui a de la valeur. Aucune valeur, nos œuvres devant Dieu. Ce qui a de la valeur, c'est ce que Christ a accompli. Et c'est là que je veux me tenir. Je veux me tenir dans l'œuvre que Christ a accomplie pour moi. Et Dieu veut me donner sa justice, son approbation, par grâce, il veut me la donner. Et c'est en Jésus-Christ que je la trouve. Chercher l'approbation de Dieu par moi-même, ça me conduit à une séparation d'avec Christ. C'est pas là que je veux être. C'est pas là que je veux être. Ce que je veux réellement, c'est que Dieu m'approuve sur ce que Christ a accompli. Et maintenant, réaliser que je suis un enfant de Dieu, et apprendre à apprécier ce que Christ a accompli pour moi. Peut-être que tu es ici ce matin et tu n'as pas encore saisi toute l'œuvre de Christ que Christ a accompli sur la croix. Ce que Christ est venu faire, dans le fond, c'était que moi, à cause de mes péchés, je ne pouvais pas mériter l'approbation de Dieu en faisant des bonnes œuvres. Il n'y a rien qui pouvait effacer mon péché. Puis à cause de la sainteté de Dieu, je ne pouvais pas entrer dans la présence de Dieu. Mais Dieu a envoyé son Fils. Dieu le Fils, il est venu dans le monde. Il est venu vivre une vie comme la mienne. Une vie sainte et parfaite qui fait qu'il a pu prendre sur lui la condamnation que je méritais à cause de mes offenses, de mes péchés, de ma désobéissance à Dieu. Et par le sang qu'il a versé à la croix, il s'est rendu obéissant jusqu'à la croix et le sang qu'il a versé me purifie de tout péché. Et par le sang versé de Jésus-Christ, je peux maintenant dire, quelqu'un a pris ma place. Quelqu'un a subi le châtiment à ma place. Puis quelqu'un veut me donner sa sainteté, sa justice. Et par la foi, je dis, oui, je le veux ça. Je viens à Christ et je dis, Christ, tu as tout accompli pour moi. Je pensais pouvoir le faire par moi-même, mais c'est impossible. Je le vois dans ta parole. Et puis maintenant, je veux le saisir par la foi, ce que toi, tu as accompli pour moi. Et si tu n'as pas pris cette décision-là encore et que tu cherches encore à tirer le regard sur toi, détourne le spot de sur toi, mais mets-le sur Jésus-Christ et dis, moi, je crois à ça. Puis c'est comme ça, Seigneur, je veux être approuvé de toi. Je veux être, à la fin, obtenir les bénédictions de la promesse puis avoir la vie éternelle. Et si tu n'as pas pris cette décision-là, dans ton cœur, je t'invite à le faire, à ne pas tarder. Ce qu'on veut, c'est vraiment être approuvé de Dieu à la fin, lorsque va venir la fin. Chérir l'œuvre de Christ comme le plus grand trésor pour mon âme, ça m'amène à réaliser que la loi peut pas me procurer. Je suis encore sous l'esclavage avec la loi. Et puis, que dans un sens, je suis cherché à me procurer ma propre justice, m'amène à me séparer de Christ. Mais maintenant, Dieu a fait quelque chose de spécial. Et ce que nous, on a maintenant comme assurance, il dit au verset 5, pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Et la promesse qu'il y a, c'est que lorsqu'on vient à Jésus-Christ, Dieu nous donne son Esprit. Et dans nos cœurs, par la parole de Dieu et par l'Esprit qui est en nous, Dieu nous donne une espérance, une assurance que j'ai obtenu la justice de Dieu. Puis qu'à la fin, lorsque va venir la fin, je vais entrer dans la présence de Dieu et je vais être approuvé de Dieu. Et j'ai ça maintenant par l'Esprit, par une foi agissante, comme l'a dit le verset 6. C'est une foi agissante, c'est une foi qui porte du fruit. On va prendre le temps d'aller un peu plus en détail sur cet aspect-là dans le reste du chapitre 5 à partir de la semaine prochaine. Mais la réalité, c'est que à cause de ma foi en Jésus-Christ, Dieu me donne son Esprit qui me confirme que je suis un enfant de Dieu et j'ai cette espérance dans mon cœur que je suis entièrement approuvé de Dieu. Donc, chérir l'œuvre de Christ comme un plus grand trésor m'amène à réaliser que mes œuvres n'y sont pour rien pour être approuvé de Dieu. Que si je recherche mon acceptation en dehors de Christ, je suis séparé de Christ et donc séparé de Dieu plutôt qu'accepté de lui. Et finalement, lorsqu'on saisit Christ par la foi, Dieu nous donne son Esprit qui nous confirme que notre justification est complète devant Dieu et que je n'ai pas à m'inquiéter. Son amour ne se séparera point de moi parce qu'il m'a aimé en Jésus-Christ. Et finalement, si on veut demeurer ferme, premièrement, on a dit qu'il faut apprécier notre identité en Jésus-Christ, qu'on est des enfants de Dieu. Mais deuxièmement, qu'on doit apprendre à chérir par la foi l'œuvre de Jésus-Christ comme le plus grand trésor. Mais finalement, avec la fin du passage des versets 7 à 12, on découvre aussi qu'il faut abandonner ce qui m'influence à ne pas obéir à l'Évangile. Et ce qu'on réalise à travers ça, c'est que les Galates s'étaient détournés de l'Évangile. Verset 7, « Vous courriez bien, vous qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? » Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Et en réalité, ce qui est arrivé, c'est que les Galates ont été influencés. Et ce qu'on apprend aussi, c'est que nous-mêmes, c'est facile pour nous d'être influencés. Des fois, on trouve que le message de l'Évangile, c'est tellement simple que j'aurais besoin d'en ajouter un petit peu pour réussir à dire, hey, là, il va être correct si j'ajoute à ça. C'est trop simple. Hey, Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. J'ai juste à croire là-dedans. Voyons donc. Il faut que j'en fasse plus un peu, il me semble. On est par nature, cherche notre approbation à travers ce qu'on fait, à travers qui on est. Non. C'est simple comme ça. Puis Paul dit que juste une modification mineure à l'Évangile nous éloigne complètement de la vérité de l'Évangile puis nous entraîne loin de Christ. Quand il dit au verset 9, « Un peu de levain fait lever toute la pâte. » Je prends le message de l'Évangile, il est beau, tout ce que l'œuvre de Christ, ce qu'il a accompli pour moi. Puis là, je dis, je vais peut-être ajouter une petite affaire ici où je pourrais modifier une petite chose-là. Tu mets un petit peu de levain dans le message de l'Évangile, ça scrape tout. Change-le pas, il est parfait comme ça. Tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit. Le message de Dieu, ce que Dieu accomplit, la bonne nouvelle de Christ, c'est parfait. Fait que quand tu ajoutes un peu, puis lorsqu'on est influencé à en ajouter, puis à modifier un peu, on est en train de tout scraper finalement. Puis plutôt que de s'approcher de la grâce de Dieu, on s'en éloigne. Et ce que Paul dit, c'est soyez vigilants parce que c'est facile pour vous d'être influencé. C'est facile pour vous d'être influencé à croire que l'Évangile est trop simple puis que vous devez en faire un petit peu plus. On doit revenir à l'Évangile pour ça. Et Paul dit à travers le verset 10 que j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous penserez autrement, que vous allez vous détourner de cette influence-là. Et c'est ce qu'on doit faire en réalité. Le Seigneur nous amène à un certain moment donné, lorsqu'on est influencé, lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, le Seigneur nous amène à réaliser, « Hey, je suis en train de m'écarter de l'Évangile. Je suis en train de m'écarter de ce que la grâce que Dieu m'a donnée. » Et puis c'est tellement facile, puis même si je suis un pasteur, que j'enseigne l'Évangile pendant des semaines, je suis retrouvé au milieu de mes vacances, puis je me suis dit, j'ai oublié l'Évangile. C'est arrivé des situations pendant mes vacances où on était plus en famille, avec les enfants, puis des fois, Tu es en vacances, tu cherches, qu'est-ce que tu cherches? Oh, je vais me reposer, je vais être confortable sur le bord de la plage, on va s'asseoir, puis ça va, on va se reposer. Pas avec quatre enfants, de 7 à 2 ans, non. Non, pas de même. Puis là, qu'est-ce que ça provoque? « Hey, moi, je suis venu ici me reposer, moi, là, là! » Ça marche pas, cette affaire-là, là. On va régler ça. Puis là, l'impatience, la colère, puis embarque, puis finalement, tes vacances, on est en train de scraper des journées de tes vacances, finalement. Puis là, ça arrive à un moment donné, puis là, c'était vers la fin, puis là, je dis, hey, moi, je prêche la semaine prochaine, ça va pas bien dans ma vie. Il me semble qu'il faudrait que... Seigneur, je suis pas sûr, je suis digne d'apporter ta parole, moi là, j'ai des péchés dans ma vie, puis t'as oublié l'Évangile, Alex? T'as oublié que ce qui a de la valeur, c'est pas tes bonnes œuvres, puis ton obéissance, puis ta spiritualité, ce qui a de la valeur, c'est Christ. Je suis venu devant le Seigneur, puis je dis, oui, j'ai péché, puis Seigneur, je te demande pardon, mais pas moins accepté de toi à cause de ça. Ton amour ne va pas se séparer de moi. Fait que oui, on vient devant Dieu, on confesse. Seigneur, j'ai manqué d'être un modèle envers mes enfants. J'ai péché contre toi. Je cherchais à me servir moi-même plutôt que de te servir. Mais je suis entièrement approuvé de toi. Puis ça, c'est cette confiance-là que j'ai quand je viens devant toi. Et là, je suis venu devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, je te confesse ça. Je ne suis pas parfait. Je vois prêcher l'Évangile, puis prêcher Galates, puis je me dis, il faut que je m'approprie ça pour moi maintenant. Mais c'est une lutte de jour en jour. Hein? De jour en jour, on doit lutter, puis on voit nos péchés, puis on se sent crotté. Puis finalement, on pense que Dieu nous accepte moins, qu'on n'est pas digne de le servir. On n'est pas digne de se mettre à genoux pour aller prier. T'es son enfant, il attend juste ça que tu viennes le voir. Il attend juste ça que tu ailles à lui pour obtenir de l'aide dans ta situation où tu as besoin de lui. Il attend juste ça que tu ailles vers lui. C'est comme si, dans le fond, des fois, je veux aider mes enfants à faire quelque chose, puis bon, les enfants disent « Non, je suis capable. » Dans le fond, tu sais qu'il n'est pas capable. Ça n'arrivera jamais. T'sais. Il veut, je sais pas, moi... des fois, les gars jouent à la Wii, puis il y a un tableau qui est difficile, puis ils veulent finir par le passer, puis finalement, ils me demandent leur aide parce qu'ils ne sont pas capables. Mais des fois, ils disent non, je suis capable. OK, vas-y, fais-les. Finalement, moi, ce que je veux, c'est regarde, je vais t'aider. Je suis là pour toi. Je veux t'aider. Non, je suis capable. On est comme ça. On dit, Seigneur, je suis capable. Regarde, je vais me remettre en règle. Là, tu sais, je vais aller lire ma Bible. Je vais aller prier. Puis dire, tu sais, bon, spirituellement, ça ne va pas bien. Là, je vais me replacer. Puis dans un sens, on le fait religieusement. C'est ça le problème. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut retourner à la parole. On veut aller prier. Mais lorsqu'on le pense que c'est ça qui va nous rétablir correctement vers Dieu, c'est pas ça. Ce qui nous rétablit, c'est l'œuvre de Christ. Puis pas notre spiritualité ou notre religiosité, si je peux dire. Mais plutôt Christ lui-même qui nous vient en aide lorsqu'on crie à lui. Et c'est ce qu'on a besoin de revenir à ça. On a besoin de revenir à l'Évangile. Et on a besoin de grandir en maturité pour discerner et chasser les faux raisonnements. Et puis, en fin de compte, il y avait des gens qui influençaient dans l'Église de Galates. Et l'Église de l'Espoir a besoin de grandir en maturité pour connaître et saisir l'Évangile et voir lorsque l'erreur arrive. Lorsque vos faux raisonnements commencent, ou il pourrait y avoir des faux enseignements, il faut être prêt à discerner ça. Et on a besoin pour ça de grandir en maturité, pour revenir à un bon raisonnement, comme on le voit dans le verset 10. Paul avait cette confiance dans le Seigneur qu'il allait penser correctement, mais pour penser correctement, j'ai besoin de chasser les faux raisonnements et arriver à une compréhension correcte de l'Évangile puis de l'approbation pour moi. Alors, écoutez, si on veut grandir en maturité, on a besoin, ça se fait pas tout seul chez nous, assis devant dans mon salon. Ça se fait en allant vers les Écritures. Ça se fait en saisissant les opportunités qu'il y a dans l'Église. S'il y a quelque chose de merveilleux qu'on a ici à l'Église, c'est des cours bibliques. Le dimanche matin, pour moi, lorsqu'on va un peu plus en profondeur dans l'étude de la parole et comment ça se traduit dans nos vies, on a besoin de se nourrir de ça si je veux revenir à une compréhension correcte de l'Évangile. Jean-Sébastien et Caroline vont animer un groupe de discussion sur changer vraiment comment, centrer sur l'Évangile. Tu as besoin de ça. Et puis, ça va être un groupe de discussion, là, les dis pas toutes, mais tu sais, ça va revenir. Mais dans un sens, c'est, on a besoin de prendre, de s'arrêter puis de contempler la parole de Dieu, de se la faire expliquer des fois pour qu'on puisse vraiment saisir c'est quoi l'Évangile pour ma vie, puis je puisse après ça discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais. Est-ce que c'est vraiment l'Évangile qu'on est en train de m'enseigner? Est-ce que c'est vraiment l'Évangile qui est dans mon raisonnement? On a besoin d'être nourri de la parole. Et je vous encourage à chercher à grandir en maturité à travers les cours bibliques qu'on a ici. Ceux qui veulent aller plus loin, on a des cours de SEMBEC qui sont offerts aussi. Et là, on va encore plus. Là, ceux qui prennent les cours de niveau SEMBEC, il y a plus de travail à faire un peu, mais c'est riche. Hein? On approfondit la connaissance des Écritures et peut-être que c'est quelque chose que vous pourriez considérer de prendre un des cours SEMBEC. À l'automne, je vais donner le cours l'établissement et l'expansion de l'Église dans le livre des Actes. Et puis, c'est un survol un peu plus approfondi du livre des Actes qu'on a vu à travers les prédications, mais vraiment, qu'est-ce que ça veut dire dans l'Église et comment on l'applique dans notre philosophie de ministère. Alors, si tu as à cœur l'Église de Christ, si tu veux répondre à l'appel que Christ veut que tu fasses, tu formes des disciples, tu dois appliquer ton cœur à grandir en maturité et saisir l'Évangile, te l'approprier pour toi, puis de jour en jour le vivre, puis après ça, pouvoir aider d'autres à le vivre avec toi. Et l'Église de l'espoir, si elle veut garder l'Évangile au centre de ses ministères, elle a besoin d'avoir des gens, des hommes et des femmes matures dans l'Évangile, ancrés dans l'Évangile et capables de savoir comment le vivre de jour en jour. Alors, je vous encourage à abandonner ce qui nous influence, mais à consacrer nos cœurs aussi à étudier l'Évangile. Donc, pour demeurer ferme dans la vérité de l'Évangile, on doit abandonner ce qui nous influence à ne pas obéir à l'Évangile et plutôt revenir à l'Évangile, chérir ce que Christ a fait pour moi. Et en terminant, comme chrétien, ça nous arrive souvent de défaillir dans notre foi, de remettre en doute mon approbation que Dieu a et de vouloir attirer l'attention sur moi plutôt que sur Jésus-Christ. Mais si on veut demeurer ferme dans le fait que Christ a tout accompli pour moi, puis obéir à la vérité, on doit constamment revenir à l'Évangile. Ça veut dire réaliser puis apprécier qui nous sommes maintenant en Jésus-Christ. Dieu nous accepte réellement parce qu'il a fait de moi son enfant. Apprendre à rester attaché à Jésus-Christ en chérissant l'œuvre qu'il a accomplie pour moi, puis abandonner les faux raisonnements qui pourraient m'influencer et m'éloigner de la vérité de l'Évangile. Si on veut demeurer ferme, frères et sœurs, on a besoin d'y mettre des efforts. Et pendant que l'équipe de louange s'avance, c'est ce que j'aimerais vous rappeler, c'est qu'on a besoin de mettre des efforts. Lorsque j'abandonne un petit peu, c'est tellement facile pour moi d'être influencé. On doit y mettre nos efforts. Et par l'Esprit de Dieu qui nous aide, on doit prendre du temps pour s'approcher de Dieu en lisant, en méditant, en étudiant la parole, l'Évangile. J'ai besoin que ces vérités soient pas seulement au fond de mon cœur, mais qu'elles remplissent mon cœur et mes pensées quotidiennement. J'ai besoin que l'Évangile soit tout le temps là, présent. Je veux dire, tout le temps comme, Alex, oublie pas ce que Christ a accompli pour toi. Oublie pas qui tu es. Oublie pas que ce que j'ai accompli pour toi, c'est merveilleux. Puis vis selon ces vérités-là. Fais attention de ne pas être influencé parce qu'il pourrait t'éloigner de la vérité de l'Évangile. Mais les vérités de l'Évangile doivent envahir mon cœur et mes pensées quotidiennement. Je dois me lever le matin en me rappelant qu'aujourd'hui, qu'importe ce qui est arrivé ou ce qui va arriver, par sa grâce et par la foi, Dieu a fait de moi son enfant, puis il n'y a rien qui va changer de quoi à ça. Il n'y a rien de ce que tu as fait dans le passé que lui ne peut pas pardonner. Puis il n'y a rien de ce que tu vas faire qui va t'éloigner de lui. Lorsqu'on est son enfant, on l'est une fois pour toutes. Le Seigneur nous appelle ce matin à demeurer ferme, à ne pas se relâcher, à garder nos cœurs pour qu'on vive comme des enfants qui grandissent dans leur amour pour Jésus-Christ, qui poursuivent davantage cette connaissance de l'amour. On veut demeurer ferme ensemble, frères et sœurs, et vivre pour la gloire de Jésus-Christ, pour la gloire de l'Évangile. On va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier parce que l'Évangile est tellement merveilleux. Si c'était juste de moi, Seigneur, je serais encore perdu dans mes péchés. Encore perdu, m'en allant tout droit vers la condamnation éternelle. Mais dans ton amour, alors que moi j'étais un ennemi. Toi, tu es venu vers moi pour donner ta vie pour moi. Seigneur, ce cadeau est tellement précieux, il a tellement de valeur. Je ne veux pas l'oublier en pensant que tu as besoin de mettre les regards sur moi puis de m'approuver dans tout ce que je fais, mais plutôt de me retrouver en Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la paix qu'on trouve en toi. Merci pour cette assurance. Merci aussi pour le repos qu'on trouve en toi. Ce repos qui va durer éternellement. Et Seigneur, on a hâte de venir dans ta présence, de rentrer dans ta présence pour l'éternité où on va te louer. Mais maintenant, on veut vivre comme des enfants de Dieu, libres du fardeau de la loi, libres par le sang du calvaire. Seigneur, aide-nous à vivre pour toi, à vivre ces vérités de jour en jour, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. On va continuer notre célébration de ce que Christ a accompli pour nous en prenant le repas du Seigneur. On va chanter ensemble un chant qui nous introduit au repas du Seigneur. À travers ce repas, à travers ces éléments qu'on va prendre, on veut se rappeler ce que Christ a accompli pour nous et lui rendre toute la gloire pour ça. Amen.